Elle a fini par le faire, prendre un avion pour rejoindre le bout du monde. Son but, tourner le dos à la vie épouvantable qu'elle mène à Paris, les quitter, tous sans exception. Son mari Paul, la famille et les amis. Dire non à cette pression constante, au carcan social, au mépris dont elle est victime. Tout cela a trop duré. À 27 ans, Flore, la brindille aux boucles brunes, a sauté le pas. Une mini-lueur d'espoir brille à nouveau quand elle fait la connaissance de Milly, 23 ans, et de sa mère Autonne, la cinquantaine passée, qui l'accueille chez elle, lui offre le gîte et le couvert en échange de travaux de toutes sortes, 4 heures le matin dans leur camping. Mais ce n'est pas n'importe quel camping. Celui-ci, resté le plus sauvage possible, se trouve sur une réserve naturelle dans la région la plus australe de la Nouvelle-Zélande, la région des Catlins. Flore ne sera pas comme tous ces backpackers qui ne font que passer et reprennent la route une fois que l'automne arrive. Elle va s'installer durablement dans ce bout du monde pour tenter de se retrouver, pour faire la paix avec elle-même. Elle traînera pourtant son passé longtemps, il ne la lâchera pas si facilement, surtout sa culpabilité dont elle ne parvient pas à se défaire. Là-bas, loin de tout, elle va pourtant se reconstruire, apprendre à aimer les silences, à accueillir la nature comme il se doit, à vivre parmi les Maoris et les Kiwis, le nom qu'on donne aux Néo-Zélandais d'origine européenne. Le lien que les deux jeunes femmes, Flore et Milly, vont tisser est très beau, parce qu'il évolue avec les mois qui passent, de plus en plus solide, de plus en plus complice. Flore doit beaucoup à Milly, la jolie sauvageonne, blonde comme les blés, qui est la plus grande connaisseuse de la faune et la flore de la région, et sa meilleure protectrice aussi. Milly doit aussi beaucoup à Flore. Grâce à elle, Milly gagnera en assurance, en confiance et qui sait, peut-être qu'elle aussi voguera un jour vers de nouveaux horizons. Les femmes du bout du monde, le sixième roman de Melissa D'Acosta, publié aux éditions Albin Michel, parle du don de soi, nous dit qu'il faut savoir se pardonner et partir pour mieux revenir. Bonjour Melissa D'Acosta et merci d'avoir accepté notre invitation à Secret d'écriture. Dites-nous pour commencer les raisons du départ de Flore, ce qu'elle fut exactement.
Sans trop en révéler, Flore fuit un mariage qui a pris l'eau. Un mariage d'amour au départ qui a fini par devenir extrêmement toxique. Alors c'est une jeune femme qui vient d'une famille modeste. À Sens, en Bourgogne, et qui s'est mariée avec Paul, qui lui vient d'un tout autre milieu social. Ses parents sont très aisés, vivent dans un très bel arrondissement de Paris, et en l'épousant, elle a épousé une vie qui ne lui correspond absolument pas, fait de carcans très très forts, notamment pour les jeunes femmes. On a essayé de la transformer, elle ne se reconnaissait plus, son mariage avec Paul a fini par devenir complètement malsain et toxique, rongé par l'adultère, par les crises. Il a versé dans la haine même. Et donc, elle fuit cela et une très, très forte culpabilité puisqu'elle a plus ou moins poussé son mari au suicide. On le découvre dès les premières pages.
Alors, je crois savoir qu'à l'origine de votre roman, il y a un voyage que vous avez vous-même effectué en Nouvelle-Zélande. Combien de temps a-t-il duré ? Car vous semblez très bien connaître ce pays.
Le voyage a duré un an, où nous avons parcouru la Nouvelle-Zélande en long, en large, en travers, en van. Voilà, notre souhait, c'était vraiment de vivre au plus près de la nature, des réalités du pays. Donc, on s'était dit pas d'hôtel, pas de camping, de camping luxueux. Hein. On a écumé les petits campings où il y avait à peine un bloc sanitaire et un évier. Et donc, on s'est rapproché au plus près de la culture maori, de la culture kiwi. On a noué des relations avec des locaux, puisque tout au long du voyage, on s'est aussi arrêté pour travailler. Et c'est comme ça qu'on a pu nouer des liens avec la population.
C'était il y a longtemps ?
C'était en 2018. Donc, pas si longtemps que ça.
Vous aimeriez y retourner ?
Pourquoi pas ? Alors, j'appréhende un petit peu les 30 heures et quelques d'avion, de correspondance. C'est ce qui nous freine un petit peu, mais... Ce serait une très, très belle chose d'y retourner et puis de faire découvrir ce pays à notre fils, puisque je suis partie avec mon conjoint quand on était encore libre, sans enfant.
Très bien. Page 310, Flore écrit une lettre et dit ceci au sujet des rapports qu'elle entretient avec Milly et Autonne. « Si tu te demandes ce que nous faisons ainsi, loin des hommes, je vais te le dire. Nous veillons sur notre petit univers, nous veillons les unes sur les autres. C'est ce que font les femmes du bout du monde. » Comment veillent-elles les unes sur les autres, Melissa D'Acosta ?
Eh bien, ce sont des liens très différents qui vont se tisser entre les différentes femmes. Flore va arriver d'abord pleine de colère, pleine de sarcasme, très ironique, très piquante. Et puis au contact de Millie, qui au contraire est totalement pure, candide, Millie qui n'a jamais vécu ailleurs que dans ce bout du monde, eh bien Flore va se révéler protectrice en fait. Elle va un petit peu jouer un rôle de grande sœur dans un premier temps, essayer de préserver Millie de la dureté du monde, puisque à l'inverse de Millie qui n'a presque jamais côtoyé d'hommes, Flore a beaucoup trop côtoyé les hommes. Elle en a gardé des marques indélébiles. Et donc voilà, elle va se poser en protectrice face à Autumn. Ce sont d'autres liens qui vont se jouer. Autumn va redevenir un petit peu mère en ayant ses deux plus jeunes filles auprès d'elle. Oui, elle va renouer avec sa part, la part maman louve d'elle-même. Et avec Flore, il va se nouer un lien de femme à femme, de femme forte à femme forte, de femmes qui ont connu le deuil ou le divorce, la séparation, et qui portent toutes les deux une culpabilité. En fait, l'une et l'autre vont reconnaître en l'autre une grosse part de culpabilité qui les rapproche.
Est-ce que ces trois personnes vous ont été inspirées de personnages réels ?
Non, pas du tout. Elles sont nées dans mon imagination. D'abord, au départ, je ne les connaissais pas plus que ça. Je savais à quoi elles ressemblaient physiquement. J'avais des prénoms, des âges. Et je ne savais pas forcément qui elles étaient. Et en fait, c'est à force de passer du temps avec elles au fil des pages que j'ai gratté et j'ai découvert un peu plus qui elles étaient profondément, quels étaient leurs passés, leurs failles, leurs rêves aussi, leurs envies.
Alors vous faites le portrait d'hommes qui ne se montrent pas toujours à la hauteur, je trouve. Je pense à Calais ou Calaï, je ne sais pas comment on prononce, l'ami d'enfance de Milly. Et je pense à Paul, l'ex-mari de Flore, tandis que les femmes sont plus fortes, plus courageuses, me semble-t-il.
Alors, ce n'était pas du tout une volonté de ma part de vouloir démontrer la faiblesse des hommes, puisque alors Paul est le vrai personnage lâche, ou en tout cas un petit peu faible du roman. Mais par exemple, Kay, en effet, il a failli à sa promesse, mais je trouve qu'on ne peut pas lui en vouloir. C'est un enfant qui a grandi dans la baie, qui rêve de partir lui aussi, qui est dans une quête identitaire. Il a des origines maoris, mais ses deux parents se sont éloignés de la communauté maori et il est vraiment en quête de se rapprocher de cette communauté. Et donc, s'il rompt sa promesse, s'il part, s'il trahit Millie, c'est absolument pas par lâcheté ou par méchanceté, mais voilà, j'ai essayé de décrire ce départ avec tendresse et on sent qu'avec dans sa nouvelle vie, il prend ses responsabilités, il prend très à cœur de se montrer voilà, un bon père de famille, responsable. Et donc, je ne pense pas que je l'ai dépeint de façon trop lâche. Et puis, on a ce formidable personnage d'Anaru, qui est le papa de Kay, qui est un petit peu le vieux sage de ce bout de terre et qui est fantastique. Et à l'inverse, dans les personnages féminins, on a aussi des personnages féminins qui sont redoutables. La belle-mère de Paul est complètement toxique, complètement malsaine. Elle s'est accaparée son fils, elle est très étouffante. Donc, il n'y avait pas de volonté vraiment de ranger les hommes parmi les mauvais et les femmes parmi les bonnes âmes. Vraiment, j'ai essayé de répartir les torts des deux côtés et Flore n'est pas en reste non plus. C'est absolument pas un ange. Donc, bon, ça s'est fait comme ça, mais voilà. Il n'y a pas de volonté de cliver.
Tout à fait, non. Flore n'est pas un ange. Millie est un ange.
Ouais,
absolument, Millie est un ange. Étonnant, je trouve, c'est un portrait magnifique parce qu'en même temps, elle a beaucoup de caractère en fait.
Oui.
C'est une femme qui, une jeune fille plutôt qui sait ce qu'elle veut et elle a un côté extrêmement poétique et sauvage à la fois, je trouve, Millie.
Oui, et ce que je trouvais amusant, c'est que ces deux jeunes femmes, donc Millie et Flore, quand on les met en miroir, elles sont exactement à l'inverse l'une de l'autre. Millie est incapable de s'en sortir parmi les hommes. Parmi les jeunes, parmi les hommes, dans les villes, dans toutes les situations sociales, elle est totalement en décalage, Millie. Quand elle se retrouve invitée au mariage de Kay, c'est à peine si elle sait qu'elle est quand même censée boire un verre avec les invités avant de partir. Elle ne veut pas se mêler à la foule. Donc, elle est vraiment inadaptée à tout ce qui est social. Et Flore, à l'inverse, connaît ce monde de la fête, ce monde mondain. Et à l'inverse, Flore est absolument effrayée par l'océan, par les animaux, par la nature. Là où Millie sait se servir d'une tronçonneuse, sait conduire un quad, peut s'en sortir en pleine nature. Et donc, en fait, l'une et l'autre sont inadaptées pour une partie de la vie. Et l'une et l'autre vont apprivoiser cette autre partie.
Absolument. Il y a beaucoup d'émotions dans le mariage maori que vous décrivez. Avez-vous assisté à l'un d'eux ?
Non, j'aurais beaucoup, beaucoup aimé assister à l'un de ces mariages. Quand j'ai décidé d'écrire cette scène de mariage maori, j'ai écrit à un ami qu'on s'était fait, qui était de la communauté maori, avec lequel on avait travaillé à l'usine à l'époque. Et il m'avait dit « Promis, promis, je te réponds, mais là, je suis trop occupée. » Et comme je suis une impatiente, je me suis dit « Non, j'ai besoin de l'écrire maintenant, cette scène. » Et donc je me suis débrouillée pour aller chercher toutes les informations que je pouvais sur Internet, sur les différents rites, les objets qu'on s'offre, qu'on se remet l'un à l'autre. Je me suis renseignée de mon côté, mais j'aurais aimé vivre ça, oui, quand j'y étais.
La nature et la faune occupent une place importante dans les femmes du bout du monde, particulièrement à travers le personnage de Milly, dont on vient de parler, fille de la mer, qui chérit et protège tous les animaux qui vivent dans sa région. Êtes-vous, Mélissa D'Acosta, sensible comme Milly à la cause animale et à la préservation de la nature ?
Tout à fait, je le trouve magnifique, ce personnage de Milly, qui a fait des études d'écologie et qui, en fait, pour elle... Elle est au plus près de l'écologie, c'est pas en intégrant un poste prestigieux, je ne sais pas, au ministère de l'écologie qu'elle agit vraiment, mais elle le dit elle-même, c'est sur le terrain, dans la vie quotidienne. Et oui, c'est quelque chose qui me tient évidemment beaucoup à cœur. Et si c'est cette région de la Nouvelle-Zélande que j'ai voulu mettre en valeur dans mon roman, c'est aussi et surtout par les animaux qui peuplent la baie, parce que tout au long de notre périple, on a vu des choses bien plus grandioses que les Catlins. Des fjords, des glaciers, des lacs incroyables, bleu turquoise, entourés de monts tout blancs. Et les Catlins, c'est un paysage qui rappelle la Bretagne, c'est assez commun. Quand on va voir les photos, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est les animaux qui y vivent, en fait, et qui sont là-bas comme chez eux. Et partout, on a des pancartes qui nous préviennent. Attention, là, c'est le chemin que les manchots aux yeux jaunes utilisent pour rejoindre la plage. Donc faites-vous tout petit. Là-bas, on a tendu des rubans autour des plages pour ne surtout pas approcher, puisque à partir de telle heure, ils vont sortir de la mer pour rejoindre leur nid. Un peu partout, en fait, il y a cette information qui est faite au grand public de « faites-vous tout petit, laissez la place aux animaux, c'est ici chez eux, contournez-les, débrouillez-vous, faites autrement ». Et c'est ce qui nous a énormément touchés, en fait, dans cette région-là.
Croyez-vous que c'est important dans la vie de savoir partir pour mieux revenir ?
Oui, j'ai l'impression que dans la vie, la plupart des problèmes et des engrenages dans lesquels on se laisse prendre, c'est parce qu'on a peur de partir. Et du coup, on reste dans des situations professionnelles, amicales, relationnelles qui ne nous conviennent plus vraiment. Et on s'y enfonce. Et on le voit dans le cas de Flore. Les années passant, elle est tombée de plus en plus profondément dans cet engrenage. Elle s'est perdue de vue, elle s'est totalement perdue tout court. Et je pense qu'une des solutions salvatrices, mais à plein de problèmes dans la vie, c'est de partir. Alors ça peut être juste changer de travail, hein, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout de la planète, se diriger vers un autre cercle amical, vraiment, mais quitter ce qui nous pèse et ce qui nous retient.
Votre roman est riche en proverbes maoris et en légendes. Vous les aimez beaucoup, non ?
Oui, j'aime beaucoup leur rapport à la nature, en fait. Cette croyance selon laquelle l'homme fait partie d'un tout, il n'est absolument pas plus important qu'un morceau de caillou, qu'une roche, qu'un lac, qu'on fait partie d'un grand tout, les animaux sont nos cousins, la lune et le soleil sont nos frères et sœurs. Vraiment, c'est une vision, je pense que c'est une vision qu'avaient tous les premiers peuples sur Terre et qu'on a un petit peu perdu de vue. On a pris la nature pour un acquis, pour un bien de consommation qui peut nous appartenir, alors que les Maoris, comme d'autres peuples, appartenaient, eux, à la terre. La terre est leur mère, ils viennent du ventre de la terre, et il y a un respect immense que j'aime beaucoup.
Il y a notamment ce proverbe « Tourne-toi vers le soleil, ton ombre sera derrière toi ». Voulez-vous bien nous expliquer ce qu'il signifie ?
Il signifie que... Je sais pas, il me paraît évident comme ça, mais voilà, face aux difficultés, plutôt que peut-être de rester figé sur ce qui ne va pas, sur nos zones d'ombre, sur nos rancœurs, la culpabilité, eh bien peut-être il suffirait d'effectuer une petite rotation, de partir, de se tourner vers ce qui va bien et ce qu'il y a encore de beau et de lumineux autour de nous, pour laisser nos pardons derrière nous, s'ouvrir à la lumière, au renouveau, aux rencontres.
Quel est le premier message que vous souhaitez faire passer à vos lecteurs avec les femmes du bout du monde ?
Alors, j'y ai pas forcément réfléchi. Je l'écrivais. Quand je l'écrivais, j'étais vraiment dans une volonté de m'évader. On était dans une période un petit peu oppressante, post-Covid. On rouvrait tout doucement les établissements sous passe sanitaire et je voulais m'évader. Je voulais du vent dans les cheveux. Je voulais des paysages à perte de vue. Je voulais être libre. Et du coup, je l'ai écrit pour moi, pour m'évader. Mais je pense que le message qui passe, c'est un message d'envie de liberté. Voilà. Offrez-vous cette liberté, émancipez-vous. Je pense que c'est vraiment un message autour de la liberté.
Merci beaucoup, Mélissa Da Costa. Vous voulez bien nous lire un extrait ?
Plus tard, Flore se met à fredonner en français. Émilie demande : qu'est-ce que c'est cette chanson ? Elle parle de toi. Elle dit quoi ? Flore ferme les yeux, se concentre pour traduire correctement, avec justesse et poésie. Je connais des bateaux qui restent dans le port, de peur que les courants ne les entraînent trop fort. Je connais des bateaux qui rouillent dans le port, à ne jamais risquer une voile au dehors. Milly déglutit, détourne le regard. Dans le vent qui mugit, Flore poursuit. Je connais des bateaux qui oublient de partir. Ils ont peur de la mer à force de vieillir. Et les vagues jamais ne les ont séparés. Leur voyage est fini avant de commencer. Tu parles de ma mère et moi ? Milly a les mâchoires serrées. Flore pose la tête sur son épaule pour tenter de l'adoucir. « Vous devriez jeter Dan dans l'océan. »«
Quoi ?»«
Vous devriez jeter Dan dans l'océan, comme j'ai jeté Paul et tous les autres hommes. »«
Qu'est-ce que tu racontes ?»
Flore se cale encore plus profondément dans le cou de Milly. « Vous pouvez être heureuse même s'il n'est plus là. »«
Vous pouvez jurer, pester contre ce camping qui vous donne tant de travail, donner des coups de pied dans ces fichues clôtures qui ne résistent jamais au vent, mais les entretenir quand même. »«
Sentir les fleurs ensemble à l'heure bleue. » Boire du cidre plus souvent. Rire sans raison. Chanter à voix haute. Fermer le terrain un jour ou deux pour faire une grasse matinée ou aller voir les fjords. Vous n'êtes jamais allé voir les fjords.
Non. Cet idiot de Quentin est allé voir les fjords, lui. Tous ces backpackers stupides sont allés voir les fjords. Pourquoi vous n'allez jamais voir les fjords ?
Je ne sais pas. Et Flore se remet à fredonner en français.
C'est toujours ta chanson ?
Oui.
Elle dit quoi maintenant ?
Elle parle de Paul et moi.
« Traduis-moi. »
Je connais des bateaux tellement enchaînés qu'ils en ont désappris comment se regarder.
Milly n'est pas certaine de comprendre, mais peu importe. Le jour se lève sur la mer. L'heure dorée fait scintiller l'infini. Mouchette les vagues de paillettes orangées.
« Si j'avais un bateau, je t'emmènerais voir les baleines franches, » déclare-t-elle gravement. C'est la saison. Les scientifiques ont réussi à enregistrer les chants de milliers de baleines partout dans le monde. Mais pas ceux des baleines franches australes. Elle fredonne à voix basse, comme toi.
Milly sourit. Flore se tourne vers elle, sérieuse.
Si j'avais un bateau, je t'emmènerais voir les fjords.
Mélissa, passons au questionnaire secret d'écriture avec la première question, votre mot préféré.
Alors, j'aime beaucoup le mot prémisse. C'est un mot qui frémit, qui sent la vie, le renouveau, le début de quelque chose. Tout est possible.
Celui que vous détestez ?
Je n'aime pas le mot jamais, puisque c'est un mot qui ferme, qui rend les choses définitives.
Votre endroit préféré au monde ?
Eh bien, je crois que mon endroit préféré au monde, c'est dans ma tête, c'est dans mon imagination, parce que ça me permet d'être n'importe où sur la planète, et même hors de la planète. En fait, je peux être absolument n'importe où.
Votre dernière lecture ?
Ma dernière lecture, c'est le roman Le Grand Marin de Marie Poulain. Un roman qui nous emmène en Alaska, à la dernière frontière, où on suit une jeune femme qui va embarquer sur des bateaux de pêche auprès d'hommes. Et c'est très très fort. On est dans une nature rugueuse, sauvage. C'est magnifique.
Votre prochaine lecture ?
Ma prochaine lecture, c'est un classique que je n'ai jamais lu, qu'une amie m'a offert, « L'écume des jours » de Boris Vian. Elle est absolument fan de sa poésie et elle m'a presque obligée à le lire.
Quels sont vos moments privilégiés pour écrire ?
Alors moi, je suis très très efficace le matin au réveil, juste après un petit café. Donc dans l'idéal, je me mettrais à écrire vraiment voilà, dans cette espèce de langueur du réveil, de la matinée. Maintenant, dans la réalité, je dois préparer mon fils et l'emmener à la crèche. Donc,
pourquoi écrivez-vous ?
Pourquoi j'écris ? Très bonne question. En fait, je me suis mise à écrire très, très jeune, dès l'âge de 7 ans. Dès que j'ai pu former des phrases, je me suis mise à écrire. Je crois que j'aime cette possibilité de vivre 1000 vies en une seule, de prendre le costume d'un autre personnage, devenir quelqu'un d'autre, m'envoler ailleurs.
Où écrivez-vous ?
En immense majorité, j'écris dans ma maison, dans ma chambre. J'ai installé un petit coin bureau. J'ai une vue sur l'extérieur. Donc, je suis à la fois dans un cocon et à la fois ouverte sur le reste du monde.
Écoutez-vous de la musique lorsque vous écrivez ? Si oui, laquelle ?
De temps en temps, j'ai absolument besoin de silence et donc je n'écoute pas de musique. Et parfois, j'ai besoin de musique. Et donc, tout dépendra de ce que j'ai envie de faire transparaître dans les scènes que je suis en train d'écrire. Par exemple, si je suis sur des scènes très très fortes en émotion, que j'ai besoin de faire ressortir des choses très très douloureuses, je vais écouter des musiques classiques de violon et de piano. Et à l'inverse, si j'ai besoin de musique qui m'inspire de l'énergie, du dynamisme, je sais pas, je vais écouter du jazz, je vais écouter du rock. Tout dépendra de l'humeur.
Luttez-vous contre la page blanche et si oui, comment ?
En général, quand il y a page blanche, c'est que le réservoir d'inspiration est vide. Je le vois un petit peu comme ça, comme un espèce de grand réservoir qu'on a besoin de laisser remplir en allant se confronter à la vraie vie, en fait, en sortant avec des amis, en faisant du sport, en allant dans la nature. Et donc, si j'ai une panne d'inspiration, c'est que mon réservoir est vide et donc je laisse passer des jours, des semaines, voire des mois. Et je m'y remets vraiment quand je sens une envie qui frémit et qui bouillonne et qui devient de plus en plus forte.
Contre quoi vous défendez-vous ?
Alors, je me défends contre pas mal de choses, si on s'en prend à moi. Mais je dirais que ce qui me révolte le plus, c'est cette tendance humaine à mettre les choses et les gens dans des petites cases, à poser des étiquettes. Et dans ma vie d'écrivaine, c'est vraiment quelque chose contre lequel j'essaye de lutter. Quand on est écrivaine, femme, et qu'on écrit sur des sujets positifs, on a vite certaines étiquettes qui viennent se coller à nous. Et donc, j'essaie de lutter contre ça.
Merci beaucoup, Mélissa Dacosta, d'avoir participé à Secret d'écriture. Je rappelle le titre de votre livre, « Les femmes du bout du monde » aux éditions Albin Michel.
Merci à vous.
Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute. Pour découvrir les nouveaux coups de cœur de la rédaction et d'autres secrets d'écriture, rendez-vous en kiosque et sur le site de femmesactuelles.fr. À bientôt !